sais très bien que tout le monde en regarde.
C'est des filles qui sont un peu toutes nues, par exemple en string, ou alors sans soutien-gorge, qui montrent un peu tout leur corps sans être gênées.
C'est limite du viol.
C'était plutôt de la curiosité, parce que quand on est petit, on connaît rien à la femme ou quoi que ce soit, donc...
Baiser, chat, bite...
Je considère pas que ce soit une chose gravissime comme la plupart des gens, la plupart des jeunes le font. Donc non, je pense pas que ce soit comme par exemple de la drogue ou autre chose très importante.
Parole d'ado au micro France Inter d'Emmanuel Davier, Nolwenn en CM2, Thomas et Julien en 3e, mais qui évoquent leur premier porno quand ils étaient en 6e. La 6e, 11 ans, c'est donc l'âge moyen de la première visite sur un site porno. 30% des consommateurs réguliers de porno ont entre 13 et 14 ans. Vous croyez vos enfants encore accros aux Playmobil et aux poupées Barbie? Eh bien, ce sont d'autres poupées bien plus trash qui animent l'écran de leur tablette ou de leur smartphone. Alors, autant que vous le sachiez, ils auront visionné les pires scènes de fantasmes d'adultes avant d'avoir expérimenté leur premier baiser sur la bouche. Avec quelles conséquences sur leur construction d'être sexué, sur l'image qu'ils se font des rapports entre hommes et femmes? Comment parler de la pornographie à nos enfants? À partir de quel âge? Et est-ce bien à nous, parents d'ailleurs, d'en parler?
France Inter, Gilles Allais, le téléphone sonne.
Pour échanger avec vous et pour répondre à vos questions, vos craintes, la psychanalyste Claude Elmos, auteur notamment de « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» paru chez Fayard. Elena Walter, présidente de l'association Innocence, le i d'Internet, qui vient de publier un rapport sur l'accès du jeune public au porno sur Internet. Et puis, en ligne également avec nous, le professeur Israël Nizan, gynécologue au CHU de Strasbourg.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Et on commence au standard de France Inter avec vous, Florent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris.
Oui.
On vous écoute, Florent.
Eh bien, moi j'ai été accro au porno pendant nombreuses années. Maintenant, je m'en suis complètement sorti. Et la question que je voulais poser au docteur Nizan, c'est est-ce que il constate un phénomène d'addiction au porno aussi chez les ados?
Est-ce que je peux vous demander, juste avant de donner la parole au professeur Nizan, Florent, quel âge vous avez et à quel âge vous avez été addict au porno?
Moi j'ai 32 ans et on ne peut pas vraiment parler d'un âge précis à partir duquel j'étais addict, ça vient petit à petit. Disons que je m'en suis rendu compte vers 16-17 ans à peu près.
D'accord, quelques années après avoir visionné un premier porno.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Bonsoir professeur Nizan.
Bonsoir.
L'addiction au porno chez les ados alors, c'est un vrai marqueur de la société aujourd'hui?
L'addiction au porno, ça existe, elle commence chez quelques adolescents vers l'âge de 9-10 ans et peut aller jusqu'à 3 heures de consommation par jour avec une incapacité ou une grande difficulté à s'éloigner de ces images qui fascinent, inquiètent et déstabilisent les ados qui en sont dépendants. On peut parler de véritable addiction et c'est un phénomène nouveau car cette offre, cette sorte de stabulation libre sur Internet ne coûte pas un centime. Donc c'est comme si on offrait les images les plus trash à des jeunes gens en cours de formation de leur sexualité.
Qu'est-ce qui crée l'addiction, professeur Nizan? Florent disait, c'est venu petit à petit, c'est difficile à dater, mais ça commence et puis on en consomme de plus en plus. Le phénomène d'addiction, il intervient à quel moment?
Le phénomène d'addiction intervient au moment où, quasiment tous les jours, un jeune se sent pratiquement dans l'obligation, dans une attraction irrésistible, d'aller regarder ce type d'image et il est dans ce qu'on appelle une fascination dont il ne peut décrocher. Cette fascination renvoie à son équilibre psychologique personnel, elle renvoie à son environnement affectif et il y a autant de situations particulières que d'enfants qui en sont victimes car il s'agit véritablement de petites victimes.
Alors sans tomber tout de suite et généraliser le phénomène de l'addiction, vous l'avez bien dit d'ailleurs, professeur Nizan, bonsoir Claude Elmos.
Bonsoir.
Isabelle de Luvillier nous écrit sur franceinter.fr, est-ce qu'on a assez de recul pour évaluer les dégâts, le dégât du porno sur les jeunes?
Alors on n'a peut-être pas assez de recul, c'est ce qui n'est pas une réponse optimiste parce que ça veut dire que c'est peut-être encore pire, mais ce qu'on entend dans les consultations est extrêmement, extrêmement inquiétant. Si vous voulez, le professeur Nizan a tout à fait raison de parler d'offre, hein, c'est quelque chose qui est offert et ce qui a des conséquences extrêmement graves sur la construction de la sexualité des adolescents, parce que ça les oblige à se construire avec des espèces de modèles imposés de l'extérieur et des modèles qui sont en train de devenir véritablement des normes. C'est-à-dire qu'on entend des garçons qui vous disent que s'ils n'ont pas fait telle ou telle chose, eh ben, c'est qu'ils ne sont pas des garçons compétents, entre guillemets, dans le domaine de la sexualité. Et puis surtout, ça donne une vision de la sexualité et du partenaire qui est totalement déshumanisée. Hein. Dans les films porno, la sexualité, c'est pas l'affaire de deux personnes. Alors on parle pas d'amour, hein, mais simplement de deux personnes qui se choisissent et qui respectent leurs désirs respectifs, leur liberté de choix et tout. C'est une affaire de corps et quasiment, on peut dire, de corps sans tête, de morceaux de corps, et ça donne une idée de l'autre, une idée du partenaire, comme quelqu'un qui serait toujours d'accord pour satisfaire les pulsions de l'autre. Et on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Alors effectivement, hein, encore une fois, peut-être qu'on mesure pas jusqu'au bout ce qui se passe, mais ce qu'on entend d'ores et déjà permet, sans être dans le catastrophisme, d'être vraiment très 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 inquiet, parce qu'il faut pas oublier que ce sont des images, ce sont des films, et que l'image, c'est pas comme un texte qu'on lit ou un dessin qu'on voit. L'image, on rentre dedans. Dans un film, on rentre dedans, et ces images provoquent des sensations, et ces enfants qui se retrouvent, ces adolescents qui se retrouvent à tous les moments de la journée en train de regarder ça, ils sont finalement dans la même situation que s'ils étaient aux prises avec un dealer qui leur offre de la drogue pour les faire qu'ils s'accoutument et qu'ils soient des clients. Et c'est quand même exactement ça qui se passe.
Vous parlez, Claude Almos, et peut-être le professeur Nizan peut réagir aussi à cela, et on retourne juste après au Standard de France Inter parce qu'il y a déjà beaucoup de questions. Vous parlez de l'importance de l'image, parce qu'effectivement, quand on lit un texte, on se construit une image qu'on est capable d'imaginer, d'absorber en fonction de ses repères, de ses limites. Mais là, la violence de l'image qui est imposée peut créer le traumatisme, professeur Nizan.
Les sites que vont voir les adolescents sont tellement violents que vous ne pourriez pas les regarder. Et je constate, en allant faire de l'information à la sexualité dans les écoles, que les questions que posent les jeunes en classe de 4e, en classe de 3e, sont directement influencées par la consommation de pornographie. L'autre jour, un jeune demandait « Mais pourquoi les femmes aiment-elles sucer le sexe des animaux ?» Alors je lui dis « Mais vous savez, aucune femme n'aime ça. Oh mais si, il faut voir les bruits qu'elle faisait lorsqu'elle pratiquait cela. » Donc c'est de l'image, ça frappe au premier degré des jeunes qui n'ont aucune capacité à mettre de la distance. Et quand on leur demande « Pourquoi vous allez regarder ces images ?», ils répondent d'une seule voix « On veut voir ce que les meufs, elles aiment. » Et la pornographie a une réponse à cette question. Les meufs, quand elles disent non, en fait, ça veut dire oui. Il n'est pas question de consentement dans la pornographie. Il n'est question que d'aliénation des femmes. Les femmes, c'est des objets dont on peut se servir. En fait, la pornographie est un précis de la sexualité virile. Il s'agit, son apothéose, c'est l'éjaculation. Il n'est pas question de la relation amoureuse. C'est, comme le dit Claude Almos, un déchaînement de chair sans aucun sentiment qui ne correspond pas du tout à la réalité à laquelle les jeunes sont exposés. Et donc on est là devant l'absence d'information à la sexualité dans les écoles, mais rassurez-vous, la pornographie éduque nos enfants à notre place.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Claude Almos, et puis Marie-Catherine nous attend au Standard.
Oui, parce que il faut. Je crois que tout ce qui vient d'être dit est vraiment très très juste, et il faut bien voir. Il y a un jeune homme qui au début parlait de curiosité. Ce sont des jeunes qui en général n'ont pas d'information, n'ont pas eu depuis qu'ils sont petits une information sur la sexualité par leurs parents et à l'école, et ils ont vraiment l'impression, la télé-réalité aidant, que c'est comme ça que ça se passe, c'est ça qu'on ne mesure pas, c'est qu'ils ont, et le professeur Nizan l'a très bien dit, ils ont l'impression que c'est comme ça que ça se passe, que c'est comme ça que ça doit se passer, et que d'ailleurs, s'ils n'y arrivent pas, eux, ils sont totalement incompétents. Et je crois que c'est là qu'on peut dire que ça a des conséquences gravissimes, et gravissimes pour les années à venir.
Bonsoir Marie-Catherine.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Rouen.
De Rouen, en effet.
On vous écoute.
Voilà, je suis infirmière à l'éducation nationale en collège, et chaque année, en fin d'année, en troisième, auprès d'élèves qu'on va donc libérer en lycée, je fais 2 heures d'éducation à la sexualité, ce qui permet de discuter de la contraception, etc., en même temps. Et il y a un jeune élève qui qui écoutait avec beaucoup d'attention et qui me dit « Mais moi, madame, je ferai jamais l'amour à ma copine. » Nous étions en groupe classe, donc je lui dis « Est-ce que tu me permets de te demander d'expliquer un peu plus loin ce que tu veux dire ?» Et il dit « Mais non, moi, madame, je veux pas la battre, ma copine. » Et j'étais avec une prof qui était dans le groupe, et on a tout de suite compris que cet enfant-là, que ce jeune adolescent avait une vision de l'amour liée à la violence, mais par des films pornographiques. Et loin de se sentir écrasé par le fait qu'on explicitait quelque chose qui venait de lui, il se sentit rassuré, parce que ça nous a permis de discuter du savoir dire non, savoir dire oui, savoir reculer devant une pression très forte de demande, savoir se sentir prêt, savoir se dire que je vais peut-être rater la première fois, mais tant pis, on est amoureux, on recommencera une deuxième fois. Mais ça nous a véritablement frappé le « je ne veux pas faire l'amour avec ma copine parce que, madame, je ne veux pas la battre ».
Alors évidemment, votre témoignage n'implique aucune réponse, Marie-Catherine, c'est un témoignage. Je voulais juste vous demander si, en tant qu'infirmière scolaire, vous êtes suffisamment armée pour faire ces séances d'éveil à la sexualité et à ce à quoi l'attente des collégiens est devenue aujourd'hui.
Alors, dans un collège, la seule personne qui peut parler du corps, de la tendresse, de l'amour, ce sont les infirmiers ou les infirmières, parce que toucher un sujet qui concerne le corps, pour eux, c'est évident. Puis deuxièmement, on a la chance, quand on est infirmier à l'éducation nationale, on passe un concours, certes, mais l'éducation nationale nous offre des formations continues assez conséquentes auprès de psychiatres, de psychologues, etc.
Et qu'est-ce qu'on vous apprend à répondre par rapport à toutes ces questions, ces témoignages, ces choses qui vous font tomber de votre chaise parfois quand les collégiens évoquent le porno?
Bon, d'abord, le savoir écouter, le savoir entendre. Et puis, dans la formation initiale des infirmiers et infirmières, il y a énormément de psychologie. C'est le docteur Kouchner, un jour, qui avait dit que les infirmières reçoivent en heure d'enseignement psychologie beaucoup plus que les médecins généralistes. Et je pense que ça, c'est un outil énorme. Et je le répète, la formation que l'on nous donne pour encadrer, pour entendre, pour aider, pour orienter les adolescents est un outil extraordinaire. Parce que là, quand on est dans un collège, on n'est pas là pour faire une rétrobulbaire ou une prise de sang, on est surtout là pour écouter, on est surtout là pour les entretiens psychologiques, puisque c'est l'une de nos missions essentielles, et d'orienter ensuite vers soit des psychiatres ou des psys, si véritablement on détecte quelque chose de plus fort, quoi, que la simple question sur la tendresse, l'amour. Mais il y a même des parents qui nous demandent, qui nous téléphonent ou qui nous voient...
Comment j'en parle ?
Oui, est-ce que... Comment j'en parle ? Ou madame, faites-le d'abord et ensuite je rediscuterai avec mon enfant. Mais la discussion initiale sur sa sexualité, faites-le, ce sera plus facile pour vous.
Merci Marie-Catherine de nous avoir appelé de Rouen. Je me tourne vers vous, Elena Walter, avant de retourner au Standard de France Inter, présidente de l'association Innocence. Je rappelle que vous publiez là ces jours-ci un rapport sur l'accès au porno des enfants. Le plus inquiétant, et ce qui sort tout en haut de votre rapport, c'est l'exposition accidentelle aux images pornographiques, et pas uniquement chez les adolescents, mais chez les enfants. C'est-à-dire que les images porno, on ne va pas forcément les chercher. Elles arrivent sur l'écran par accident et en nombre.
Oui, tout à fait. Bonsoir. Ce qui est très inquiétant, c'est que, comme vous l'avez dit, la moyenne d'âge est à peu près 11 ans. Et que les enfants qui surfent sur Internet pour aller regarder un film, pour aller regarder un match de foot, donc sur du streaming ou du live streaming, tombent accidentellement sur des pop-up, des fenêtres qui s'ouvrent, pornographiques. Donc il n'y en a pas qu'une, il y en a une dizaine.
10, 15.
Exactement, qui s'ouvrent. Et les enfants se retrouvent face à ces images et ces films pornographiques sans l'avoir voulu, sans l'avoir désiré. Et c'est ce qui est pour nous très inquiétant. Et c'est ce qu'on a essayé de travailler dans ce rapport-là, et essayer de comprendre.
Parce que la prise de conscience est nécessaire avant de commencer à chercher des solutions, mais déjà, il faut prendre conscience de ça, effectivement.
Exactement, hein,
c'est
oui.
Que l'exposition peut être accidentelle, la première fois, les premières fois. Bonsoir David.
Allô ?
Oui, bonsoir David, vous nous appelez des Yvelines.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter, on vous écoute.
Je vous en prie. Écoutez, moi juste un témoignage, je suis parent de trois enfants, informaticien, et je suis souvent sollicité par des parents, justement, par rapport à ces histoires de contrôle vis-à-vis de l'Internet. Moi, ce que je passe mon temps à dire, c'est que le contrôle, c'est aux parents de le fixer. On ne peut pas imaginer de solution
Il n'y a pas de solution
miracle.
Technique.
Il n'y a pas de solution miracle. Je crois que il y a le rôle des parents, hein, qui est de d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'Internet, d'accord ? Hein, c'est quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose de magique, voilà. Et après, et d'expliquer aussi la sexualité, d'accord ? Voilà, et d'accompagner l'enfant dans l'usage qu'il peut faire d'Internet. De toute façon, un enfant curieux, si on lui met des barrières, il va chercher à aller forcément à passer par-dessus. Donc s'il fait pas ça chez lui, il fera ça ailleurs. D'accord ? Donc je crois qu'il y a un moment de la vie où voilà, les enfants sont tous attirés par certaines choses. Maintenant.
On va renvoyer votre question et votre témoignage, David, vers le professeur Nizan. Professeur, est-ce que c'est vraiment aux parents d'aborder, sans savoir si leurs enfants ont été exposés à ce type d'image ou pas, d'aborder la question ?
Je pense que les parents le sentent bien. Ce n'est pas une histoire de famille, l'information à la sexualité. Car les parents, ils sont là pour l'éducation à la morale, l'éducation à la censure, et ils ne peuvent pas promouvoir la licence. Des parents qui diraient à leur enfant « Viens voir par ici, on va parler de la manière de mettre un préservatif » risqueraient d'être fort à contre-pied pour deux raisons. D'abord parce que les parents sont dans l'imaginaire des enfants les premiers objets sexuels dont les enfants rêvent. Mais surtout, parler de sexualité à ses enfants, c'est peu ou prou lever le voile sur sa propre sexualité. Et s'il y a une chose que les enfants ne peuvent pas entendre, c'est bien ce qui a trait à la sexualité des parents. Je voudrais revenir sur le témoignage de l'infirmière qui disait qu'il y a un lien entre violence et pornographie. Je pense qu'une partie de l'augmentation de la violence que l'on voit chez nos jeunes vient et tient à l'éducation par la pornographie qui est la leur. Et je pense qu'effectivement, il est extrêmement important de rappeler aux parents que la censure est impossible, car ils regardent cela sur les smartphones des copains dans les cours de récréation, et que la seule chose qui serait valable à demander dans notre pays serait que, comme dans un hôtel, lorsqu'on veut voir un film pornographique, la première image délivrée par les serveurs d'accès soit payante. Ce libre accès, ce pornographie qui vous saute au nez et qu'on n'est pas obligé de chercher, cette espèce de grande offre généralisée de pornographie qui ne rapporte rien aux marchands de pornographie parce qu'elle est gratuite,
qui ne rapporte rien, professeur Nizan, on évalue quand même le marché mondial de l'industrie de la pornographie sur Internet à 73 milliards d'euros. Donc il y a bien des gens quand même à qui ça rapporte. Ces sites Internet sont aussi truffés de publicité.
C'est pas ces segments-là de la population. La population des adolescents qui représentent 30% des consommateurs de pornographie ne rapporte rien à ces milliardaires du web.
Parce qu'au-delà de leur consommation du porno, ils ne sont pas consommateurs de produits, c'est ça que vous nous dites ?
Non, ils ne sont pas consommateurs de produits, ils n'achètent pas parce qu'ils ne peuvent pas acheter.
Ils n'ont pas d'argent.
Ma demande, c'est qu'on dise aux serveurs d'accès qui sévissent sur notre territoire, pas une seule image pornographique sans avoir mis un numéro de carte bleue.
Alors ça résoudra peut-être une partie du problème, si techniquement c'est possible bien sûr, mais certainement pas l'intégralité du problème. Agnès nous écrit sur franceinter.fr « Dans mon collège, des filles de 3e font circuler des vidéos d'elles en train de s'introduire différents objets, règles, flûtes. L'acte est ce qu'il est, je ne porte pas de jugement, nous dit Agnès, mais c'est l'exhibition qui est choquante. Cela pose le problème du respect de soi et sans aucun doute aussi des autres, hein, Claude Almos. »
Pardon ?
Je dis le témoignage d'Agnès, hein, qui écrit que ses camarades de classe de 3e font circuler des vidéos dans lesquelles elles se mettent en scène et elle ne porte pas de jugement sur l'acte, mais elle dit que c'est l'exhibition qui est choquante.
Bien sûr, et puis ça veut dire que ces jeunes filles n'ont aucun respect d'elles-mêmes. Mais moi, je voudrais revenir sur la question des parents, parce que contrairement au professeur Nizan, moi, je crois que les parents ont un rôle essentiel, et qu'ils ont un rôle essentiel depuis la petite enfance. Alors, je suis tout à fait d'accord, et ça fait longtemps que je me bats pour qu'il y ait une information sexuelle à l'école, et dans les collèges, et dans les lycées, et c'est ce que fait le professeur Nizan et d'autres, est extraordinairement important, parce qu'il y a des familles, et que, parce que même si toutes les familles familles le faisaient, il faudrait le faire. Mais le rôle des familles est essentiel. On commence quand des parents peuvent expliquer à un enfant petit qui a besoin pour se repérer dans la vie, savoir qui il est, savoir d'où il vient, savoir où il va, s'il est une fille, un garçon, qu'est-ce que ça veut dire comme devenir, etc. Quand il lui explique en gros à partir de 3 ans ce qu'est la sexualité, mais en gros la différence des sexes, la conception des enfants, le fait que les mères ne font pas les enfants toutes seules, etc., etc. D'une part, on lui donne une boussole pour sa vie, mais surtout, on lui montre que c'est quelque chose dont on peut parler. Hein. Et il ne s'agit pas du tout de donner des informations sur ce qui se passe dans la chambre parentale. Au contraire, si l'enfant dit « Et vous, vous faites quoi? Vous faites comment ?» etc., c'est « Ça ne te regarde pas ». On lui donne une information générale. Mais surtout, en lui donnant cette information générale, on lui signifie que la sexualité, c'est quelque chose dont on peut parler. Et ensuite, ça continue tout au long de la vie. Ça veut dire très concrètement qu'un enfant qui a vu dans les petites classes, ça existe même dans les petites classes, on vient de l'entendre des tas de fois. Quand un enfant qui a vu un film, il va avoir du mal, mais il pourra en parler à ses parents parce qu'il sait que c'est quelque chose dont on a le droit de parler. Et à partir de là, il y a déjà une part du traumatisme qui va pouvoir se régler. Mais surtout, ça veut dire que les parents, à partir d'un certain âge, peuvent parler aux adolescents de ces films porno en disant bien à quel point c'est destructeur, que c'est attirant, que ça provoque du plaisir, des émotions physiques et du plaisir, et que c'est destructeur, exactement comme l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas. Ça veut dire que les images et eux, il y aura un écart qui va se créer et une parole qui va les protéger. Ils ne vont pas y aller sans filet. Voilà. Alors, la parole des parents, c'est un filet par rapport au danger de la pornographie. Ça ne règle pas le problème, et le professeur Nizan a raison, il faut trouver un moyen que ce ne soit pas en accès libre comme ça. Fondamental, le rôle de la famille est fondamental dès le plus jeune âge de l'enfant.
Avec juste peut-être cette réserve, et je me tourne vers vous, Elena Walter, c'est que, quand bien même on a parlé dans le plus jeune âge avec les enfants, il y a quand même un âge où le dialogue parent-enfant devient un petit peu plus compliqué, où les enfants se referment un peu comme des huîtres à cette période de l'adolescence, et où provoquer une discussion avec eux, c'est pas forcément facile. Vous avez, vous, 4 enfants, 2 dans l'adolescence et 1 dans la post-adolescence. C'est compliqué de parler avec eux, en particulier de ces choses-là.
Oui, tout à fait, parce que certes, on peut parler de sexualité avec ses enfants, mais les images que regardent ces enfants, ces adolescents, comme le dit le professeur Nizan, sont des images totalement trash. Et je ne pense pas qu'un parent puisse imaginer que son enfant puisse regarder de telles images et de telles vidéos. Ce sont des images qui sont dangereuses pour l'enfant, car l'enfant ne fera pas la différence entre le bien et le mal, et ce sont des images qui sont totalement dévastatrices.
Vous, est-ce que vous avez déjà réussi à aborder le sujet avec vos enfants? Ou alors, vous posez les questions, mais il n'y a pas de réponse en face, ou
J'ai essayé d'aborder le sujet, sauf qu'il n'y a pas de communication possible. Mm-hmm. On reste que sur du technique, hein, sur le streaming, sur comment contourner...
Mais pas ce qu'on y trouve.
Exactement, exactement.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez au 01 45 24 7000.
Hervé, au standard du téléphone sonne. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
On a un enfant de 14 ans qui joue régulièrement à des jeux vidéo extrêmement violents en réseau. Et ça dérange pas particulièrement ma femme. Par contre, pour la mettre en porte-à-faux, je lui ai proposé d'acheter un film porno à mon fils. Et là, bien sûr, elle est sortie de ses gonds et ça s'est mal mis. Donc, ce que je voulais savoir, c'était pourquoi on laisserait un gamin jouer à des jeux vidéo pendant des heures et des heures où il tue des gens à tour de bras dans la rue et on l'empêcherait de regarder un film porno.
Vous le laisseriez, Hervé?
Ah non.
Non, d'accord.
C'est surtout
pour nous rassurer.
Le paradoxe qu'il y a de les laisser jouer à des jeux violents.
Bon.
Et à côté de ça, on lui interdirait de regarder des films porno.
J'ai bien compris. Claude Almos, qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense qu'il n'y a pas à laisser un enfant ou un adolescent regarder des jeux violents, jouer à des jeux violents pendant des heures. Alors là aussi, c'est comme parler de la sexualité. C'est difficile, mais c'est important qu'il y ait une parole parentale par rapport à ça, et c'est important que des limites soient mises par les parents. Vous savez, les adolescents, les limites, ils n'aiment pas ça, mais en même temps, ça les rassure et ça les construit. Alors, ils donnent des coups de pied dans les murs. C'est un âge où on donne des coups de pied dans les murs, mais il faut que les murs résistent, parce que si alors que tout bouge à l'intérieur de soi, en plus à l'extérieur, intérieur, ça s'écroule, c'est vraiment l'angoisse maximum. Donc, il n'y a pas du tout à laisser jouer à des jeux violents. Mais je persiste à dire que même si la discussion est difficile avec un adolescent, le fait que ses parents parlent juste pour dire que ces films existent, que même si on ne peut pas se représenter exactement dans le détail, on sait qu'ils existent et qu'ils véhiculent une vision de la sexualité qui est totalement inhumaine et qui ne correspond pas à la réalité, c'est une parole qui ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd, même si l'adolescent fait semblant de rien entendre et claque la porte, il a entendu, ça a été dit. Et ces paroles-là, c'est quand même une protection qui est là entre l'image et l'adolescent pour qu'il ne soit pas complètement embarqué dans l'image. Et on voit bien d'ailleurs quand on reçoit des adolescents en thérapie que ceux qui ont eu comme ça une structure de parole sont quand même moins en danger que les autres. Ça ne veut pas dire que le problème va être réglé, hein, mais ils sont moins en danger. Ça met des garde-fous.
Flo nous écrit sur Twitter avec le hashtag Telson, jusqu'où aller dans la confiance ou dans la surveillance, professeur Nizan?
Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Claude Almos sur le rôle des parents dans la création des limites et des barrières.
Alors la confiance, la surveillance.
Confiance, explication, discussion, et je pense que quand ça c'est pas fait dès le plus jeune âge, dans l'apprentissage du respect de soi-même, dans l'apprentissage du respect de l'autre, il est difficile de construire par-dessus. Mais vous posiez tout au début la question de savoir quelles sont les conséquences. Eh bien, il y a un auteur qui s'appelle Richard Poulin, qui est un chercheur québécois, qui a publié beaucoup de travaux sur les conséquences de la consommation de pornographie, consommation à l'âge adolescent, et qui montre que...
Et on en trouve effectivement des conséquences assez loin dans la vie de ces ados. Ça les détruit assez profondément, et sur des registres un peu étonnants, je dirais même.
Les conséquences sont proportionnelles à la précocité de la consommation, elles sont proportionnelles à l'intensité de la consommation, et il a mesuré ça sur les pratiques sexuelles dans la vie adulte, sur la fréquence de l'utilisation d'objets pendant les rapports sexuels, sur les pratiques sexuelles et sur les pratiques diverses et variées. Bref, la pornographie consommée en période d'adolescence modifie la manière dont se construisent les fantasmes et la sexualité d'un individu et les modifie dans un mauvais sens, puisque la consommation, par exemple, de pornographie soft par des adultes, mais de pornographie montrant des rapports sexuels avec des enfants, donne des idées et peut rendre des personnes qui n'avaient pas de pulsions vers les enfants, peut créer des pulsions vers ces enfants. Donc très clairement, la consommation de pornographie modifie les rapports sexuels et la sexualité des individus, et je vous renvoie... Et c'est pour ça qu'on avait dans le livre écrit avec Brigitte Letombe, et si on parlait de sexe à nos ados, paru il y a 2 ans chez Odile Jacob, rendu un très fidèle rapport de ces recherches de Richard Poulin, parce qu'on a déjà la preuve des effets néfastes de la consommation de pornographie pendant l'adolescence.
C'est ce que vous disent Elena Walter aussi, les parents que vous avez interrogés pour rédiger ce rapport sur l'accès au porno des adolescents.
Oui, essentiellement, mais je pense aussi qu'il est, certes, il est important de parler avec ses adolescents, mais il est aussi illusoire que d'imaginer qu'un adolescent puisse parler de sexualité et de pornographie à leurs parents, quand on sait qu'il y a plusieurs millions d'enfants qui ne parlent même pas à leurs parents, qui ne mangent même pas avec leurs parents. Alors, est-ce que c'est important d'investir cette sphère familiale où il n'y a pas d'autres portes d'entrée pour pouvoir discuter de ce sujet c'est la question que je me pose.
Kevin au standard de France Inter, bonsoir Kevin.
Oui, bonsoir, c'est monsieur Kevin, j'appelle de Paris 87-8. Je trouve depuis tout à l'heure que le débat est un petit peu hors sujet, puisque j'ai l'impression finalement qu'on fait plus le procès de la pornographie, plutôt que de parler des dangers d'Internet en général. Moi j'ai une bonne trentaine d'années, et lorsque j'étais adolescent, j'avais accès aussi dans la cour de récréation, bien avant les tablettes, à la pornographie, avec les cassettes VHS qui s'échangeaient là, et les magazines qui s'échangeaient également. Et finalement, je suis pas certain qu'on puisse juger est-ce que la pornographie c'est bien ou c'est mal. Finalement, ce qui est mal, c'est les excès. Et je pense qu'un parent doit s'inquiéter si il voit son enfant qui passe le mercredi après-midi enfermé dans sa chambre à faire quoi qu'il fasse, sans voir personne, plutôt que simplement regarder, un petit peu de pornographie, Enfin, j'en sais rien.
Mais on va poser la question, Kevin, éventuellement à Claude Almos. Claude, est-ce que c'est l'abus de porno qui doit inquiéter les parents, ou est-ce que finalement ça reste quand même aller une curiosité, un moyen d'aller à quand même apprendre des choses?
Mais je crois pas qu'on apprend pas des choses comme ça. Du temps où il y avait, où on allait en douce regarder le catalogue de la Redoute ou autre chose, on pouvait éventuellement se créer, avoir la pression d'une information ou se créer un idéal. Là, on est vraiment, vraiment dans une norme. Et je crois qu'on n'est pas dans une histoire de ce, notre auditeur parlait de bien et de mal. On n'est pas là-dedans. On est dans vraiment l'effet sur la construction de l'enfant. Il n'y a pas un petit peu ou beaucoup de porno. Un enfant de 11 ans, de 12 ans, un adolescent de 13 ans qui regarde une scène particulièrement trash, ça provoque une émotion chez lui. À partir du moment où ça provoque une émotion chez lui, il devient forcément, ou il peut en tout cas, il y a le risque qu'il devienne accro à cette pratique-là, alors qu'il ne serait pas devenu, entre guillemets, accro s'il n'avait pas rencontré cette image et la force de cette image et ce qu'elle a provoqué dans son corps. C'est un peu comme une drogue où il suffirait d'en prendre une ou deux fois. On ne peut pas dire que l'héroïne, c'est grave si on en prend telle quantité, et pas grave si on en prend un peu. Il se trouve que là, ça a une influence, ça a vraiment un effet très fort sur le corps. Ça provoque une émotion physique, et après, cette émotion physique, on va vouloir la faire se reproduire. Et puisqu'elle s'est produite avec cet objet-là, cet objet-image-là, cette pratique qu'on a vue là, et ben, on va continuer avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que les travaux de Richard Poulain montraient que on peut induire des fantasmes chez quelqu'un qui ne les avait pas eus avant. Il y avait peut-être une fragilité qui permettait qu'il puisse les avoir. N'empêche que peut-être que s'il n'avait pas rencontré ces images, il ne serait pas tombé dans des pratiques qui, en l'occurrence, il s'agissait de pédophilie, dans des pratiques déviantes. Mais je crois que ce n'est pas une histoire d'un petit peu ou beaucoup, et je crois que ça va vraiment très loin, parce que quand on dit que ça détruit très profondément, ça détruit la construction de la sexualité, puisqu'on se construit de façon préfabriquée, avec des normes préfabriquées, des images fourni de l'extérieur, mais on peut se dire quand même que c'est tellement important la sexualité pour un être humain, la capacité à fantasmer, que ça joue forcément sur tout le reste des fantasmes, sur les capacités de création. Enfin, la sexualité, c'est un domaine de création. À partir du moment où cette création-là vous est interdite parce que de l'extérieur on vous impose des choses, rien ne dit que ça n'influe pas sur le reste des possibilités créatives.
On a encore beaucoup d'appels au standard de France Inter, Claude Almos, et on va accueillir Alain. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Perpignan.
Voilà. Donc j'ai 62 ans, je suis peut-être un peu vieux jeu.
Bah, pourquoi pas? Pourquoi? Pardon.
Comment? Ce qui me choque dans ces émissions, c'est que, sur le rôle des parents, il me semble que même un enfant, effectivement, vous avez souligné que dès 3 ans aussi, on peut, ça se construit tout le temps, mais on peut lui parler quand même de plaisir, de désir, d'amour, de choses sans rentrer dans les détails, mais on est au niveau des émotions, surtout du partage, de ce qu'on ne pas recevoir mais donner d'abord, donner à l'autre, c'est des choses que alors c'est des choses peut-être philosophiques, mais c'est des choses qu'un enfant peut comprendre dès 3 ans et avoir une éducation. C'est pas forcément une éducation sexuelle, c'est une éducation au rapport à l'autre et au rapport à l'autre sexe en particulier, ou éventuellement au même sexe suivant les indications.
Pour compléter Alain, votre témoignage, mi-question, mi-témoignage, je voudrais accueillir Isabelle aussi du Finistère. Bonsoir Isabelle.
Oui. Je pense que je suis un peu dans la continuité de ce que Mme Claude Almos disait il y a quelques minutes à propos de créativité, c'est-à-dire que la déferlante de films porno, de ce qu'on appelle les films porno actuellement, c'est un peu empêcher des adolescents qui regarderaient et des jeunes qui regarderaient de construire peu à peu leur sexualité à partir de ce qu'ils construisent, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on imagine, ce qu'on supporte, ce qu'on supporte pas. Et la différence, évidemment, entre le fantasme et la réalité. Et la possibilité de dire « j'imagine des choses incroyables, mais dans la réalité, ce qui me fait du bien, c'est pas ça. Je ne suis pas un super héros, je ne suis pas une femme comme ça. » Et cette espèce de manière de plaquer des images toutes faites est très violente, de proposer que ça. C'est vraiment méprisant par rapport aux enfants, aux adolescents qui se construisent. C'est les priver de, eux, construire leur propre route. Et ça, je trouve que c'est vraiment très dommage.
Merci Isabelle. Eh bien, un adolescent, nous en avons un au téléphone. Bonsoir Charles.
Okay. Oui, bonjour.
Merci d'appeler le téléphone sonne, que vous écoutez attentivement, j'imagine, depuis une quarantaine de minutes à présent. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Charles ?
Donc oui, ce que je voulais vous dire, qui est très important, c'est que oui, j'écoute le débat depuis le début. Je pense que on part dans la caricature. Personnellement, les personnes que je connais autour de moi, bon, on est aussi en pleine découverte. On parle du sexe, de ce genre de choses-là, je sais pas, des fellations, on parle de ce genre de choses, mais. Il faut bien savoir qu'on est dans une, on fait une découverte. Je crois que si un jour on trouve une fille, moi par exemple, si je sors avec une fille, et que ça prendra du temps. J'aurais besoin.
Vous êtes en train de nous dire, Charles, je précise que vous avez 16 ans, que vous arrivez à faire la part des choses entre les images que vous voyez éventuellement, les discussions que vous avez dans votre groupe d'adolescents et ce que vous ferez avec votre amoureuse le jour où elle viendra.
Oui. On en a pleinement conscience. Je suis bien d'accord qu'il doit y avoir certaines personnes qui ne font pas du tout la part des choses, mais...
Et la sexualité, est-ce que vous en parlez avec vos parents, Charles, puisqu'on est un peu sur ce débat quand même, hein, depuis le début de l'émission. Est-ce que vos parents ont abordé la question ? Est-ce que vous l'abordez avec eux ?
Oui, je l'aborde sans...
C'est venu d'eux ou de vous ?
Mes parents et moi également.
D'accord.
On n'a pas de tabou particulier vis-à-vis de ça. Et oui, il faut savoir que apparemment, on a l'impression qu'avec la pornographie, il n'y a plus aucune gêne pour parler de sexe. Mais cette sorte de gêne de retenue existe toujours. Elle n'a pas disparu. Il existe toujours un tabou avec le sexe et la pornographie.
Mais c'est pas avec vos parents que vous avez envie d'en parler. C'est ce que vous nous dites. Hein.
Oui, c'est sûr. J'en parle avec mes parents, mais je ne vais pas qu'en parler avec eux. Voilà.
Bon, merci de nous avoir appelé, Charles. Merci beaucoup. Allez, une question sur franceinter.fr et puis on va retourner voir Claude Almos et le professeur Nizan. Hippolyte nous écrit: qu'en est-il de la pornographie gay et de son impact sur les adolescents dans la découverte de leur sexualité? Claude Almos, est-ce que regarder un porno gay, ça peut rendre homo? La question est celle-là, je pense, hein.
Mais je crois qu'à l'adolescence, de toute façon, on se cherche et on fait des expériences, et c'est pas parce qu'on a une expérience homosexuelle qu'on est homosexuel, et c'est pas parce qu'on a une expérience hétérosexuelle qu'on est hétérosexuel. Donc je crois que c'est pas vraiment un problème que la pornographie soit hétéro ou homosexuelle. Le problème, c'est qu'elle fonctionne avec des images qui emprisonnent les adolescents et, comme le disait très bien une auditrice, d'une certaine façon, qui leur vole la construction de leur sexualité. Et je trouve que Charles, j'étais très contente d'écouter Charles parce qu'il a beaucoup de chance, il a des parents qui l'ont parlé. Bien sûr qu'à partir d'un certain âge, et c'est important, on va parler à l'extérieur, c'est pas à ses parents qu'on va raconter ces histoires de petits copains ou de petits amis, bien évidemment, mais c'est important d'avoir eu des paroles qui entourent. Et comme le disait aussi fort bien un auditeur, ce qui est important, c'est que les parents, quand ils parlent, ils peuvent surtout dire aux enfants que, et aux adolescents, que la sexualité, c'est quelque chose d'humain, qui a de la relation, qu'il y a de l'amour ou qu'il n'y en a pas, mais qu'en tout cas, il y a du respect de l'autre, il y a de la parole, et que c'est une affaire de personne et pas de bout de viande qui s'anime sur un écran.
Allez, dernière question, elle est sur franceinter.fr, je vais la porter au professeur Nizan. C'est Pignon qui nous écrit sur franceinter.fr: j'ai été bloqué jusqu'à 18 ans. 18 ans, je regarde mon premier porno, par la même occasion, première masturbation. Donc à un certain âge, je pense que le porno peut avoir un côté positif pour les gens bloqués sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Nizan ? Vraiment, réponse en 20 secondes.
Je ne suis pas un triste sire qui s'oppose à la pornographie. La pornographie peut être utile et peut être à l'occasion, dans certains couples, un starter ou quelque chose qui fonctionne. Ce qui me gêne, c'est que des enfants découvrent et ont leurs premières émotions sexuelles grâce à la pornographie mise en stabulation libre dans notre pays, un pays où on a des tabous sur l'éducation à la sexualité et où il faut que nous ayons plus d'informations sur la sexualité dans les écoles pour justement dire aux jeunes que la pornographie ne leur fait pas du bien et que ça n'a rien à voir avec la réalité.
Merci professeur Nizan, merci Claude Almos, merci Elena Walter. Derrière la caméra ce soir, Hervé Marchon avec Raphaël Rousseau, Loïc Frapsau. C'est émission préparée par Jérémy Younes et sur les réseaux sociaux, Alexandre Bougnol. Quant à moi, je vais aller effacer l'historique du navigateur de l'ordinateur d'Hélène Jouan. Je ne voudrais pas lui causer du préjudice.